nous continuons notre étude sur la famille et bientôt nous allons terminer cette étude. Donc, ce que je voudrais faire pour les prochains quelques dimanches, c'est approcher la famille en tant qu'organisation ou entreprise. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais la famille en tant qu'organisation ou en tant qu'entreprise. Et donc, Philippe, si tu veux distribuer ça à ceux qui le veulent, donc c'est ça. Donc, cette brochure, j'ai recueilli des proverbes qui concernent la famille. Et à la fin, j'ai mis cette petit dessin qui a une Bible au centre avec la croix. Donc, le centre de la Bible, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous a procuré notre salut. Donc, Jésus-Christ et sa parole, ça devrait être le centre de notre vie. Et tout le reste de notre vie devrait être réglé autour de cela. C'est ça que cette dessin signifie. Merci. Donc, au fur et à mesure, nous allons voir pas mal des proverbes qui sont là-dedans. Nous n'allons pas voir tout, mais ça c'est pour vous. Comme ça, vous pouvez voir ces proverbes indépendamment, comme ça vous convienne pour le temps. Regardez dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Aujourd'hui, nous parlons de la famille et en particulier, nous allons voir son budget. Le budget familial. Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Nous allons revenir à cette histoire plus loin dans le message. Maintenant, je voudrais lire Proverbes chapitre 14. Proverbes chapitre 14 et le verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Je répète, tout travail procure de l'abondance. L'abondance, c'est le bénéfice, le salaire. Tout travail procure de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent que la disette. Aussi, dans Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, et verset 28, Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Hein, je répète, que celui qui dérobait, donc c'était un voleur, hein, c'était une personne qui ne travaillait pas, son métier était voleur, et ce n'était pas bien. Donc le converti qui était voleur, maintenant qu'il est devenu chrétien, on lui dit, il ne faut plus être voleur, il faut travailler, il faut gagner l'argent, faire les choses avec vos mains, les bonnes choses, et avec l'argent que vous allez gagner, il dit, vous aurez de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc ce n'est plus le même optique de la vie, hein, d'aller voler ce que les gens ont. Maintenant, il va travailler, il ne va pas attendre que les voleurs viennent chez lui, il va carrément aller à l'avant pour donner de l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Donc nous voyons par ces deux derniers versets, là, en Proverbe et en Éphésiens, le désir de Dieu que les hommes travaillent, qu'on travaille et que par son travail, que l'homme prospère, qu'il a l'abondance. Nous voyons également que l'homme doit venir en aide à celui qui est dans le besoin. Hein, que le voleur ne vole plus, mais qu'il travaille en faisant avec ses propres mains ce qui est bien, afin d'avoir à quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est la volonté de Dieu, qu'il donne à ceux qui sont dans le besoin. C'est un devoir chrétien. Mais le chrétien qui est chômeur professionnel, ou le chrétien qui ne se prépare pour un bon métier, hein, qui dort pendant ses études, n'est-ce pas? Ou le chrétien qui gère mal son argent, ces chrétiens ne seront pas en mesure d'agir selon la volonté de Dieu pour venir en aide à autrui, pour les gens qui sont dans le besoin. Quand en Éphésiens chapitre 4 et verset 28, on parle de venir venir en aide à ceux qui ont besoin, cette idée, c'est l'idée d'un philanthrope. Philanthrope, ça veut dire ami de l'homme, ami de l'humanité. Et ce n'est pas beaucoup différent que de dire celui qui aime son prochain. Ce n'est pas le même mot, hein, mais c'est assez près de dire la même chose. Celui qui aime son prochain, ou celui qui est l'ami de l'humanité. Et oui, les jeunes, je vous vise un petit moment là, votre éducation, votre travail à l'école déterminera votre portefeuille en tant qu'adulte. Le confort ou manque de confort que vous aurez à travers votre vie, ça dépend de votre éducation. C'est donc à vous, les parents, à pousser vos parents, à pousser vos enfants et peut-être aussi vos petits-enfants dans leurs études pour assurer le plus possible leur réussite. Vous voyez, la seconde génération des chrétiens devrait pouvoir accéder légitimement à quelques luxes et à être philanthrope. Ce n'est pas toujours vrai pour la première génération. Il y a peut-être un ivrogne sur la roue qui se convertit à Jésus et peut-être sa vie est toute gâchée. Il ne sera jamais peut-être très utile dans cette question de venir en aide financièrement à son prochain ou d'être philanthrope. Mais peut-être ses enfants vont pouvoir le faire. Vous voyez, donc je parle là de la seconde génération. Donc, comme je vous ai dit, pour les prochaines quelques semaines, nous allons aborder ce sujet de la famille en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise. La famille n'est pas une entreprise, attention. Mais avoir la famille comme une entreprise. Comme vous le savez bien, toute organisation, toute entreprise fonctionne selon un budget. Le budget assure la bonne distribution de l'argent qui est disponible. Même nous, en tant qu'Église, on établit un budget et on va distribuer l'argent plus ou moins selon ce budget. Regardez maintenant, et si vous avez donc le petit cahier que je vous ai donné, ça facilitera la chose. Proverbe chapitre 20, donc c'est comme dans la Bible, c'est par chapitre et par verset. Proverbe chapitre 20 et verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Donc ici, on a trois proverbes que je vais lire là, qui parlent de la paresse et qui montrent que la paresse apporte non pas la richesse, mais la pauvreté. Et on voudrait fuir la pauvreté. Il n'y a jamais l'encouragement dans la Bible que les chrétiens devraient s'empauvrir, de devenir pauvre. Ça, c'est pas une bonne chose. On ne peut rien faire si on est pauvre. Dieu ne veut pas qu'on reste dans la pauvreté. Il veut qu'on travaille et qu'on puisse avoir cette abondance afin de pouvoir faire les bonnes choses. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Donc il dit, ouvre les yeux, tu seras rassasié du pain une fois que vous êtes réveillé et que vous allez au travail, n'est-ce pas? Chapitre 21, un peu plus bas, chapitre 21 et le verset 25, c'est en face là. Donc il dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Et en bas de page, donc chapitre 24, Proverbe chapitre 24, versets 33 et 34, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous voyez? Donc, la Bible nous met en garde contre la paresse, que ce soit au travail, paresse dans les études, il faut être travailleur. Et nous avons déjà vu, donc, dans le Proverbe chapitre 14, on va le revoir, c'est toujours dans le même document, chapitre 14, verset 23, tout travail procure l'abondance. Donc, le travail procure, comme je vous ai déjà dit, l'abondance, le salaire, le bénéfice. Et cet salaire est votre moyen pour fonctionner. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter le billet de train, vous ne pouvez pas acheter la nourriture, vous ne pouvez pas donner à aider quelqu'un, vous ne pouvez pas acheter une carte de, je sais pas, anniversaire. L'argent est votre moyen pour fonctionner dans la société et dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent. Mais à savoir que les dépenses sur les luxes, ces choses-là, ça c'est après qu'on a fait les nécessaires. Les dépenses sur les luxes viennent après les dépenses obligatoires et nécessaires. Si vous dépensez en premier votre argent sur les luxes, vous n'aurez pas assez pour payer pour les obligations diverses que vous avez. Quand on était à Metz, donc les Cambodgiens là-bas faisaient les paris, je ne sais pas, les jeux de hasard. Et quand les allocations tombaient, tout de suite tous les hommes se réunissaient pour faire les jeux de hasard, et quelques-uns parmi eux étaient enrichis et les autres étaient appauvris. Et puis les enfants n'avaient pas l'argent dans la famille, donc pour la nourriture, pour les vêtements, pour l'école, pour rien du tout. Et donc on mendiait. C'est pas normal. Il faut premièrement pourvoir pour toutes les obligations et les choses nécessaires. Et par la suite, s'il y en a qui restent, il y a la question des luxes, n'est-ce pas? Donc, à savoir, si vous gérez mal votre argent, vous n'aurez rien pour Dieu, pour votre dîme, hein, si vous gérez mal votre argent. Ce n'est pas un message pour critiquer l'Église, je parle simplement du sujet. Donc, j'aborde le sujet, c'est pour l'avenir, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas pour Dieu dans votre dîme. Vous n'aurez rien pour votre don philanthropique. Hein? Vous n'aurez rien, hein, si vous gérez mal votre argent. Vous n'aurez pas d'argent pour votre nourriture. Vous n'aurez pas de l'argent pour l'hygiène. Ce que vous aurez, si vous gérez mal votre argent, vous aurez beaucoup de dettes. C'est ça que vous aurez. Et la dette est la dépense maintenant de votre confort futur. Vous dépensez tout ça maintenant, et bien plus tard, quand vous voulez quelque chose, vous ne pouvez pas l'avoir parce que vous devez rembourser vos dettes. Parce que vous savez, si vous ne remboursez pas vos dettes, le houssier vient prendre tout ce que vous avez pour rembourser votre dette. N'est-ce pas? Donc, il est mieux de faire attention pour les dettes. Donc, je vais parler de ce sujet, comment gérer votre salaire. Je sais, on n'a pas tous besoin de ça. Mais je sais que les jeunes auront besoin de ça. Et parmi nous, il y en a peut-être quelques-uns qui ont besoin de ça. Donc, on parle de ça. Comment gérer votre salaire? Pour gérer votre salaire, vous devez établir un budget raisonnable. Alors, je me suis pris trop en retard, donc je n'ai pas fait une petite feuille. Donc, Dieu voulant, dimanche prochain, je vous apporte une feuille que vous pouvez faire dans votre liberté à la maison pour vous aider à établir un budget qui fonctionne. Mais j'ai le plan quand même avec moi, voilà. Tiens, je vais tourner ça comme ça. Donc là, je vous donne un plan. C'est un plan vraiment de base pour un budget familial, parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas là. Vous voyez? Donc, j'ai fait quelques calculs préliminaires hier, et quand on paye toutes ces choses qui sont sur la feuille, avant d'arriver à la question de nourriture, eh bien, on voit pourquoi on a du mal à avoir l'argent à la fin du mois. Hein? Parce que l'argent va à droite et à gauche. Et c'est encore pourquoi il faut établir un budget pour voir, ah, je perds de l'argent à ce côté-là, je gaspille l'argent là, ou je pourrais mettre un manteau au lieu de rehausser le chauffage, par exemple, si vous payez un chauffage individuel, etc. Donc, la première chose, quoi que soit votre salaire, quoi que soit votre source de revenus, hein, le chrétien donne en premier, parce que Dieu, il réclame être toujours premier. Ça s'appelle adoration de Dieu. Le chrétien donne en premier la dîme. Donc, en premier, la dîme. Alors, vous savez bien qu'en France, avant même que vous touchiez votre salaire, le gouvernement vient prendre les impôts. Donc, pour la France, la première chose, c'est les impôts. Hein? Et vous ne touchez même pas. Vous n'avez, aux États-Unis, ils vous laissent payer votre impôt à la fin de l'année. Ah bon? Ah bon, d'accord, c'est semblable. J'ai pensé qu'ils vous prélèvent sur votre salaire. Ah bon, d'accord.
Les seuls impôts sont prélevés sur le salaire, c'est
le CRG. Ok, merci de me clarifier ce sujet.
C'est fou,
sécurité
sociale,
location commune. Et ça, c'est à la personne de payer? Ah, c'est prélevé, d'accord, merci. Ok, donc, voilà, il faut laisser les impôts là, donc. J'ai pensé qu'ils étaient tous enlevés, ok. Vous voyez, je suis étranger, je ne connais rien de ces questions intimes là. Donc, le don qu'on donne à Dieu en premier, hein, ça s'appelle la dîme. La dîme, c'est un mot qui veut dire 10%. Ok, regardez dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, et on va lire à partir de verset 1. Hébreux chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Donc Melchizedek a béni Abraham. Verset 2. Ça va tout le monde? Hébreux chapitre 7, verset 2. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord, donc en parlant de Melchizedek, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, dans le texte biblique. Hein? Melchizedek, il se présente comme ça. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il se présente et puis il disparaît, comme ça. Hein? Mais il est rendu semblable, donc dans le texte biblique, il est rendu semblable au Fils de Dieu, Jésus qui est l'Éternel. Vous voyez, qui était en fait en vie avant qu'il est venu ici par terre. Et maintenant qu'il est mort et ressuscité, il n'est plus là, mais il est toujours vivant, n'est-ce pas? Donc, Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. On va continuer la lecture là. Donc, jusqu'au verset 9. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Il a donné 10% du butin de ce qu'il avait dans cette guerre contre les cinq rois quand elle a récupéré l'autre. Eh bien, 10% de ses bénéfices, il a donné à Melchizedek. C'est ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme, 10%, sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Donc il parle toujours de Melchizedek. Melchizedek a reçu 10% d'Abraham et les Lévites. Donc recevaient 10% de tous les Israélites. Et il dit que Melchizedek bénit celui qui avait les promesses. Donc Melchizedek a béni Abraham. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes, Melchizedek, des mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Alors, j'ai mal dit ça, excusez-moi. Donc ici doit être les Israélites qui payent le dîme aux Lévites. Ici, ceux qui perçoivent la dîme, donc les Lévites, sont des hommes mortels, mais là, donc dans le texte biblique avec Abraham et Melchizedek, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc c'est Melchizedek qui reçoit les 10%. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, déjà en Abraham, pas Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham. Donc, toute cette histoire montre comment Abraham a donné 10% aux serviteurs de Dieu. Il a donné 10% de son butin, de tout le butin, à Dieu. Et on insiste sur de tout. Non, parce que tout ce qui vient à nous, ça vient de Dieu. Et c'est comme ça qu'Abraham l'a vu, et donc il a rendu à Dieu 10%. On note aussi que Abraham a fait ça avant qu'il y avait la loi. Vous savez, si vous calculez tous les dons et les offrandes et les dîmes et tout ça dans la loi de Moïse, ça arrive à peu près 20% des revenus des Juifs qui devaient être donnés au service des Lévites, des temples, du temple, etc. À environ 20%. Tandis que Abraham a vécu avant la loi. Abraham n'était pas sujetti à la loi. Et pourtant, il a donné la dîme de tout aux serviteurs de Dieu. Donc, ça veut dire que le principe de la dîme, et je dis le principe de la dîme, et le dîme en vocabulaire, définition, ça veut dire 10%. Le principe est valable en tout temps. C'est toujours valable, cette idée-là. D'accord? Alors, à savoir que le Nouveau Testament n'exige pas la dîme. Hein? Le Nouveau Testament ne donne jamais un chiffre. Ne donne jamais. Une fois, il dit, selon que Dieu vous a prospéré, mettez de côté. Donc, ça donne l'idée de pourcentage. Selon le pourcentage, selon ce que Dieu vous a prospéré, mettez une partie à côté. Mais il ne dit pas question 10% de votre salaire. Ce que la Bible, Nouveau Testament, insiste sur, Nouveau Testament insiste sur l'attitude que l'on donne, selon laquelle on donne. Que l'on donne avec joie et non pas avec tristesse. Donc Dieu, il aime celui qui donne avec joie. Il n'a pas dit Dieu aime celui qui donne 10% avec joie. Parce que ce n'est pas la question. La question, c'est l'attitude dans le Nouveau Testament. Donc nous apprenons à nos enfants à donner la dîme parce que c'est un bon principe. Donc on enseigne ça. C'est à eux, quand ils sont adultes, à gérer leur propre façon d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Mais en tant que nos enfants, on les oblige, on les a appris à donner 10%. Donc si on les donne de l'argent de poche, ils doivent donner 10% dans l'offrande, ici, là. OK? S'ils travaillent et gagnent un peu d'argent, ils doivent mettre 10% dans l'offrande. S'ils ont un cadeau de Noël ou d'anniversaire, donc liquide, s'ils ont de l'argent, si c'est un objet, ce n'est pas la même chose, mais si c'est de l'argent, ils mettent 10% dans l'offrande. Parce qu'on voudrait apprendre à notre enfant qu'il faut qu'il s'occupe de l'œuvre de Dieu. D'accord? Donc ça, c'est un petit entraînement pour nos enfants. Et c'est vrai que l'Église fonctionne à partir des dîmes des chrétiens. Avez-vous jamais lu la loi de 1905? Jusqu'en 1905, c'était le gouvernement qui soutenait pour les besoins des églises légales. Tandis que, avec la loi de 1905, le gouvernement a dit, « Hé, c'est à vous de pourvoir pour vos propres besoins, c'est plus nous, hein. Occupez-vous, vous ne voulez pas exister, vous ne payez rien. Si vous ne payez pas, votre église disparaîtra. » Voilà, c'est ça la loi de 1905. C'est le gouvernement qui se décharge des financements des églises pour donner ça aux membres des communautés. C'est intéressant comme principe. J'ai trouvé très bien. C'était bien dit. Donc, l'église fonctionne à partir des offrandes. C'est pour ça qu'on passe ça. Hein? Donc, on ne veut pas, Jean-Pierre, que les gens viennent à l'église pour donner l'argent. Ça, c'est pas pourquoi on vient à l'église. Mais ceux qui sont membres de l'église, il est vrai que nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Et donc, je vous propose l'idée, parce qu'on va parler dans l'Assemblée générale plus loin, mais je pense que l'Église devrait donner une dîme aussi à Dieu, et que cette dîme devrait aller envers les missionnaires. Donc, si notre budget est de 800 euros par mois, nous devrions pourvoir 80 euros, au minimum, n'est-ce pas? 80 euros qui iront aux missionnaires. Vous voyez? Les membres donnent l'offrande, et l'Église, reconnaissant que l'Église est quand même soumise à Dieu, donne aussi 10% dans l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de Dieu ailleurs. Vous voyez? Personne n'a dit Amen, donc je ne sais pas si vous avez suivi ou pas l'idée. Bon, troisième point. Donc il y a des promesses de Dieu concernant la dîme. OK? La dîme, vraiment, et moi je crois comme ça, la dîme c'est une question de pourcentage que vous devez régler entre vous et Dieu. Que vous donnez 5%, 10%, 100%, vous choisissez devant Dieu ce qui est votre pourcentage. Mais il y a quand même des promesses de Dieu à ce sujet. Donc regardez avant le Nouveau Testament dans le livre de Malachie. Je passe plus de temps là-dessus parce que je pense que c'est très important. Malachie chapitre 3. Versets 8 à 10. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Donc, est-ce possible qu'un homme peut tromper Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? La réponse, voilà, dans les dîmes et les offrandes. Donc, on fait une distinction entre les dîmes et les offrandes. C'est deux choses différentes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, ce qu'on voit dans ce petit texte-là, c'est que, en fait, la dîme, ce que vous donnez à Dieu, hein, la dîme est un acte de foi. Ce que vous donnez à Dieu est un acte de foi. Il y a des promesses de récompense attachées à cet acte de foi. Mais la pauvreté est assurée à celui qui néglige cet acte de foi. Si vous relisez bien Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, c'est ça qu'il veut dire. Et j'espère que vous croyez à cette promesse. Dieu dit, « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne fais pas ceci ou cela. » Ça, c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu peut agir dans votre vie, même dans les questions d'argent? Ah, je donne un petit exemple. J'ai déjà donné cette illustration, mais ma sœur avait des grandes difficultés financières. Elle a toujours. Mais à un certain moment, elle avait ses problèmes et elle trouvait l'argent par terre. Elle trouvait des billets de 50 dollars régulièrement par terre. C'est pas possible. Oui, c'est possible. D'ailleurs, elle a trouvé tellement de billets, j'ai dit, quelqu'un te tend une guêpe à peine, c'est ça? Guêpe à peine. Et si tu continues à ramasser les fruits là, quelqu'un va te tuer. Elle a arrêté. Mais je vous dis, elle a acheté un piano occasion, elle a amené ses enfants dans un parc d'attractions, elle gérait le budget, elle comblait le budget de famille avec l'argent qu'elle trouvait par terre. Et c'est la réalité. Donc, et à cette époque-là, elle donnait la dîme. Je ne sais pas si elle donne la dîme aujourd'hui. Hein, je ne sais pas. Mais pour dire que Dieu, il peut agir si nous avons confiance en lui. Parce qu'il attend ça de nous. Et c'est pour cela que je vous ai dit que la dîme est un acte de foi. Nous devons être des croyants dans toutes les petites parties de notre vie. Dans l'histoire que nous avons lue, hein, je ne vais pas la relire parce que trop de temps sera utilisé. Dans l'histoire qu'on a lue de cet centenier, un centenier, c'est un Romain. C'est un païen. Mais là, c'est un païen qui était bien attaché à l'idée de Dieu, mais qui n'était pas converti au judaïsme. Et on a dit donc de ce homme non-juif qu'il était un homme de compassion et bienfaisant, au verset 2. On a dit qu'il était un homme de moyenne. Il a construit notre synagogue. Bah, écoute, hein, si... Mon désir voudrait construire pour nous une église toute seule, ça prendrait beaucoup d'argent. Peut-être quoi, demi-million d'euros. Puis on va le voir. Cet homme avait de l'argent. Hein? C'est un homme de moyenne. Pas de moyenne, mais des moyennes. Hein? Mais c'était un homme généreux. Et on lit dans le contexte un homme de foi. Vous voyez, il dit, mais Jésus, je n'étais pas digne de venir, demandez-moi même. Mais écoute, même tu n'as pas besoin de venir, simplement dis le mot et je sais que mon serviteur, que j'aime bien, sera guéri. Et Jésus a dit, j'ai jamais vu de telle foi, même parmi les Israélites. Et donc, il avait la réponse qu'il a attendue de Jésus. L'homme était guéri. Je vous donne un exemple. L'exemple de J.D. Rockefeller. Jean D. Rockefeller. Regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9. Il y a tout un contexte là. On n'a pas vraiment le temps pour voir tout le contexte. Je vous incite à lire ça vous-même. 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 7. Donc le contexte, c'est les versets 6 à 11. Mais pour le temps, je suis obligé de lire que le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On ne dit pas donne 10%. Il dit ce que vous avez dans le cœur, faites ça et faites ça avec joie, mais pas avec contrainte ni avec tristesse. Donc je raconte l'histoire de M. Rockefeller. Il était de confession baptiste. C'est pour ça que je me permets de raconter son histoire. Il était baptiste. Il était très fort, peut-être trop fort, dans les affaires. Donc, toutes les lois anti-monopole étaient dirigées contre lui. Et ça continue même jusqu'à nos jours. Mais il était très fort dans les affaires, au point de devenir l'homme le plus riche du monde au début du XXe siècle. Donc, ça fait 100 ans. C'était lui l'homme le plus riche du monde. Il était grand philanthrope. Il donnait à cette époque-là, en dollars de l'époque, 550 millions de dollars à la philanthropie. Donc, si vous traduisez ça en euros d'aujourd'hui, et là, je ne suis pas sûr de le faire bien, mais je dis, bon, au minimum 6 milliards d'euros qu'il a donné à la philanthropie. Il était, à cette époque-là, il était milliardaire avant que le mot était même inventé. Vous voyez? Cet homme a donné. Il a, par exemple, donné beaucoup d'argent pour établir l'Université de Chicago. Et parce qu'il aimait les hommes, la première fois qu'il rencontrait quelqu'un dans la rue, donc il y avait un homme qui marchait avec lui, qui avait des poches pleines d'argent. Il donnait une pièce de, donc je devine la valeur à peu près, 10 euros. À chaque personne quand il rencontrait pour la première fois. 10 euros. Il avait tellement d'argent, il ne savait pas quoi faire. Donc il donnait. Et là, j'ai trouvé ça intéressant l'autre jour quand j'étais à Versailles. Donc on m'a dit que c'était Rockefeller qui a commencé la restauration du château de Versailles. C'est lui qui a donné l'argent pour faire tous les toits. Pour que le reste de la restauration pourrait se faire par la suite. Et il y a à Versailles, si vous allez à Versailles, il y a l'avenue Rockefeller, en mémoire de ce don, philanthropie. Voyez? Donc ça, c'est un homme qui déjà avait ce qu'il faisait pour Dieu. Mais vous savez, quand quelqu'un est très riche, ça peut être néfaste pour l'Église. S'il avait donné 6 milliards d'euros à l'Église baptiste de Mons, ben, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent-là? Hein? Il y en a qui disent que le chrétien ne doit donner que à son église locale, jamais rien d'autre, jamais nulle part d'autre. Mais vous imaginez ce que ça ferait à nous si on nous donnait 6 milliards d'euros aujourd'hui? On deviendrait malade. Donc, il était sage, il donnait une certaine quantité à son église, mais il donnait l'argent à droite et à gauche comme il sentait dans le sens de Éphésiens chapitre 4 verset 28, cette idée philanthropique. D'accord? Donc, je répète, donner à Dieu est un acte de foi. Regardez maintenant dans Marc chapitre 12. Je me dépêche pour ne pas prendre trop de temps, d'accord? Marc chapitre 12 et verset 41. Donc, comme j'ai dit, la semaine prochaine, je vous apporte une fiche qui pourrait, si ça vous intéresse, aider dans vos finances. proprement dit à la maison. Marc chapitre 12, verset 41. C'est la dernière chose à ce sujet-là. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc, vous connaissez l'histoire de cette dame qui, elle n'a pas mis 10%. Elle était très pauvre, elle n'avait que 2 petites pièces de cuivre. Et elle les a mis tous les deux dans le tronc. Et Jésus était là et il regardait. Il a dit, cette dame-là, avec ses 2 petites pièces, elle a mis plus que Rockefeller. Parce que Rockefeller, il a donné de son excès, il n'avait pas besoin de cet argent-là. Ça ne lui coûtait rien de donner l'argent à 10 euros à tous les gens qui passaient comme ça. Moi aussi, j'aimerais avoir ce problème-là. Mais elle n'avait que 2 petites pièces. Et elle a donné tout. Vous savez, Jésus regardait. C'est ça qui est intéressant pour nous. Quand Jean-Pierre met de l'argent dans notre tronc là, dans notre panier, Jésus regarde. Quand la dame est passée, Jésus regardait. Il voyait le cœur. Il voyait la souffrance. Il voyait l'amour chez elle. Il voyait l'orgueil chez les autres. Vous voyez? Mais ceux-là, ils ne mettent que ce dont ils n'ont pas besoin. Seulement suffisamment pour que les autres disent, « Ah, oh, il a donné beaucoup d'argent. » Vous voyez comment ça s'est passé? Hein? Et donc là, je le dis pour vous que Jésus sait ce que vous faites. Il regarde. Il ne regarde pas moins aujourd'hui. Hein? Il sait tout ce qui est dans nos cœurs. Hein? Et donc, il peut avoir le plaisir en nous comme il avait le plaisir vis-à-vis de cette vieille dame-là, cette veuve. Donc la dîme et le don. La dîme et le don. L'un c'est pour Dieu, l'autre c'est pour son prochain. Ils sont très importants. Quantité est moins important que qualité et volonté. Qualité et volonté sont les plus importants. Maintenant, regardez Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 6 et 7. Romains chapitre 13, versets 6 et 7. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont les ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction, etc. On va parler de ça. Donc l'idée, c'est que Dieu autorise le gouvernement à vous imposer. Donc la première chose, c'est qu'il faut que vous pensez à Dieu avec votre argent. Avant de dépenser votre argent, vous mettez de côté pour Dieu et vous donnez ça à travers l'église, l'offrande, le dîme, etc. Second, c'est les impôts. Il ne faut pas tricher contre le gouvernement. Vous trichez contre le gouvernement va prendre plus. Ah, donc il ne faut pas tricher contre le gouvernement. Après, dans votre budget, il y a les dettes. J'ai mis les dettes ici, les dettes, les investissements et l'épargne. Donc, je les ai mis ensemble parce que, par exemple, si on achète une maison, c'est un investissement. Mais si vous ne payez pas, vous perdez votre maison. Donc, ça va un peu ensemble. Et puis, j'ai mis épargne. Comme j'ai dit ça à Jean-Pierre l'autre jour, j'ai dit, Jean-Pierre, tu mets 3 euros à chaque fois que tu vas à la banque, tu prends ton argent, tu mets 3 euros dans un petit endroit, et comme ça, le jour que tu auras besoin, eh bien, tu auras l'argent là. Et donc, il m'a dit, la semaine après, donc il est allé avec sa carte pour retirer l'argent, et pour une raison, la carte est restée dans la machine, il n'a pas pu avoir son argent. Et donc, ça aurait été exactement la situation où ces 3 euros accumulés, au fur et à mesure, auraient servi parce que donc la machine était en panne ou l'électricité ne fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on va manger donc? Donc il faut mettre un petit peu à côté. Pour ces moments comme ça, je ne dis pas des centaines d'euros, n'importe quoi, mais un petit peu quand même pour la nécessité. Après, il y a logement. Logement, donc si vous avez une allocation logement, tant mieux. N'est-ce pas? Hein? Mais pas tout le monde qui a une allocation logement. Donc ces choses sont ensemble là, d'accord, 3 et 4. Après, nous avons fait en sorte que nous avons des prélèvements. J'ai jamais entendu parler de prélèvements aux États-Unis. Et au début, quand on dit en France, on payait les factures au fur et à mesure qu'ils venaient, mais c'était toujours déséquilibre comme ça. Et on n'arrivait jamais à avoir l'argent qu'il fallait avoir l'argent. Oh, c'était fatigant, on était désespérés. Et on a appris qu'on pouvait faire des prélèvements mensualisés pour la plupart des choses. Et donc, on a fait des prélèvements. Donc, il y a les taxes d'habitation pour ceux qui ont une maison, il y a taxes foncières, il y a l'eau, il y a EDF, il y a bon, chauffage, il y a des assurances, il y a le téléphone, toutes ces choses, ils vont prélever ça. Alors, dans notre comptabilité à la maison, tout ça, c'est déjà, on écrit le chiffre qu'ils vont prendre. On n'a même pas besoin de regarder le relevé de compte, on sait qu'ils vont prendre tant. Et à la fin, ce qui reste, c'est pour moi. Donc, alors j'ai mis téléphone 1. Parce qu'au-delà de téléphone 1, on est quand même entré dans la luxe. Hein? Je n'ai pas dit que la luxe est mauvaise. Si on peut payer la luxe, c'est à la volonté, à la liberté, n'est-ce pas? Mais quand même, un téléphone à la maison, ou comme Madame Bungu, elle a un portable à la maison, au moins on peut communiquer avec un téléphone, au lieu de prendre la voiture et conduire 10 km pour dire, est-ce que tu es là? Hein, c'est mieux, n'est-ce pas? Donc là, c'est les choses à prélever. Après, il y a les dépenses nécessaires. Il y a la nourriture. Il y a les produits de la maison. Il y a les produits d'hygiène. Hein? Mais regardez, toutes ces choses, depuis la dîme, les impôts, les dettes, les logements, prélèvements et divers, il n'y a pas beaucoup qui reste après ça. Hein? Mais c'est ce qui reste qui va pourvoir pour votre moi, pour vivre. La nourriture, donc, vient en premier, parce qu'il faut nourrir vos enfants. Et vous aussi, vous avez besoin de manger. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent qui reste, donc il faut des portions plus petites, ou un produit moins cher, etc., pour remplir l'assiette. Donc là, c'est transport. Pour certaines personnes, transport, c'est une partie très importante de leur budget. Il faut calculer ça d'avance pour aller au travail. Hein, Jean-Pierre, il faut prendre le train. Mais quand on peut, si on est en manque d'argent, on peut quand même marcher. On peut prendre le vélo, n'est-ce pas? Mais pas jusqu'à Paris, peut-être. Hein? Mais de temps en temps, ça ne nous fait pas de mal de marcher, n'est-ce pas? Et les vêtements? Bon, écoute, si vous achetez toujours les vêtements de marque, et vous avez un budget restreint, vous êtes en train de gaspiller votre argent. La marque, c'est le luxe. Hein? Vous pouvez aller pour se vêtir à Saint-Vincent-de-Paul et avoir quelque chose. Si vous n'avez pas d'argent, je suggère ça, au lieu d'aller acheter une Adidas. Hein? Et après, on n'a rien à manger pour le mois. Donc, je vous dis, achetez des vêtements génériques. Sauf dans votre optique de luxe. Si vous avez l'argent pour le luxe, bah faites comme vous voulez, mais pour la plupart des gens, donc avec le budget restreint, achetez les vêtements génériques, les choses de Auchan, de Carrefour, peut-être quelque chose sur le marché. Et il y a numéro 7 là, dons. Les dons philanthropes, de philanthropie. D'accord? Vous devriez voir ça déjà dans votre budget. Mettez, comme j'ai dit à Jean-Pierre, hein, mettez 3 euros de côté, 5 euros de côté, pas beaucoup. Mais le jour quand que quelqu'un a besoin, que ce soit une personne de l'église, on a eu ça récemment, hein, c'est quelqu'un de l'église qui a besoin, ou c'est le voisin, ou c'est quelqu'un qui est dans la rue. Oh, mais attention, ça peut être très cher, il n'y a jamais fin de tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais je le vois comme ça. Il n'y a rien qui est au hasard. Si Dieu vous confie quelqu'un qui a besoin, donc, il va voir comment vous allez réagir. Mais disons que Dieu avait, par exemple, un millionnaire qui voulait que ce millionnaire aille dans une église dans cette région-là. Mais il dit, je vais voir quelle église va bien utiliser son argent, parce que le millionnaire va donner un peu d'argent quand même dans l'offrande. Alors, il dit, cette église-là, tout va dans le poste du pasteur. Bon, c'est pas cela. Celui-là, tout va dans la nourriture. Non, c'est pas cette église-là non plus. Eh bien, regarde, cette église-là, qui s'occupe des besoins des frères et sœurs, et quand il y a besoin, il s'occupe des gens autour aussi. Alors ça, c'est une église qui agit selon mon cœur. Je vais envoyer le millionnaire là, dans cette église-là. Vous voyez, Dieu, il regarde toutes ces choses. Ben, c'est plus facile de dire, « Ah, mais non, je ne vais pas vous aider. » Mais, attention, d'accord? Parce que ce n'est pas simplement celui qui demande qui est dans l'enjeu-là. C'est aussi nous, devant Dieu. Et si nous prévoyons le don d'une manière ou d'une autre, quand il y a la possibilité, on va dire, ah, tiens, je peux donner un peu de ça à cette personne, ou je peux acheter le lait pour telle personne, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est à prévoir. Hein? Je ne dis pas de grandes sommes, surtout quand on n'a pas de grandes sommes, mais quand même une petite somme. Hein? Et par la suite, il y a le luxe. Alors, il y a beaucoup là, donc il faut que je prenne le panneau moi-même pour le lire. Donc, les plaisirs. Vous savez, il y en a qui dépensent en premier pour les plaisirs. C'est aberrant. Faut, avant des plaisirs, il faut manger. Les vacances. Bon, on aime bien les vacances, c'est la France, n'est-ce pas? Hein? Bon, il faut le planifier dans votre budget. Mais c'est un luxe. Les vacances ne sont pas dans la Bible. On travaille 6 jours, pas 35 heures. On travaille 6 jours et on prend un jour de repos. C'est ça qui est dans la Bible. Et c'était à travers toute l'année, à travers toute la vie. Donc, les vacances sont un luxe. Je ne suis pas contre les vacances, excusez-moi. Hein? Rassurez-vous. Mais je le vois comme un luxe. Après que j'ai payé tout le reste, qu'est-ce qui me reste pour les vacances? Le restaurant. Restaurant, c'est cher. Je peux manger le riz chez moi au lieu de manger du riz à Flunch. Hein, parce que le repas à Flunch, vous pouvez acheter que des légumes. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter l'assiette le plus cher. Les cigarettes. Les cigarettes sont des luxes. Hein, Dieu ne nous a pas fait avec une cigarette dans la bouche. Ça, c'est un luxe. Un luxe. Mais attention pour les cigarettes. Hein, Antoine? Hein? Entraîne. Non mais écoute, hein? C'est là, les cigarettes entraînent des frais de santé en plus. Donc on en a un budget restreint et on achète des cigarettes et on sait que par la suite on va devoir payer encore plus cher pour la santé. Bon, si j'étais Rockefeller ou Spurgeon, parce que Spurgeon fumait des cigares, des gros. Ok, ben si j'avais de l'argent, je m'inquiétais pas, hein? Mais quand le budget est restreint, eh bien, on va trouver qu'est-ce qui gêne à réussir dans la vie, n'est-ce pas? Donc j'ai mis internet. Internet devient de plus en plus important dans la société, mais c'est quand même un luxe. Si on n'a pas l'argent pour nourrir ses enfants, on n'a pas l'argent pour l'internet. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Priorité. Gourmandises diverses, j'aime bien le chocolat. Mais quand notre budget est trop restreint, je n'achète pas de chocolat. Hein? Et Antoine, chocolat, cigarette. Cinéma. Cinéma, c'est plus. Mobile numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les luxes, c'est plus. Vous voyez? C'est pas nécessaire pour la vie. Premièrement, payer pour ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire, ce qui est à Dieu, ce qui est au gouvernement. Je sais, les enfants pensent que le mobile, c'est obligatoire. Les journaux sont luxe. Si vous n'avez pas de l'argent, n'achetez pas le journal. Vous pouvez récupérer un peu là. Les jeux d'hasard, ça c'est pas une chose pour le budget. Ça, c'est un luxe. C'est même un gaspillage. OK? Et, etc. OK? Donc, je vais préparer une feuille pour vous, comme ça vous aiderez. Mais je donne un petit résumé. Gérez vos ressources. Je vous encourage. Gérez vos ressources afin de respecter vos devoirs envers Dieu et votre prochain. Et un budget vous aidera à bien distribuer vos ressources et d'éviter le gaspillage. Ok? Je ne visais personne du tout à travers de ce que j'ai dit. Enfin bon, sauf pour les cigarettes, j'ai dit ça pour Antoine. Mais on a tous besoin de cette information. On a tous besoin d'arriver à la fin du mois, non pas avec une débit, une dette, ce que je fais souvent. J'arrive à la fin du mois. Ah, je crois que ce mois-ci, j'ai une positive de 17 euros. Ah! Gloire à Dieu. Hein, c'est pas très souvent. Hein? Mais quand j'arrive à la fin du mois avec une dette, qu'est-ce que ça veut dire? La première partie qui vient de mon salaire le prochain mois, déjà disparu pour rembourser la partie que j'ai déjà dépensée le mois auparavant. Vous voyez? Donc, cette information, c'est pour vous aider à réussir vos mois et pour, en fait, commencer à avoir cette abondance dont le Seigneur parlait, d'avoir un peu mise de côté pour les luxes, pour les vacances, pour la philanthropie, etc. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à digérer l'idée de gérer. Saluez-vous les uns les autres.